Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Folia Liga podcast consacré à la 26e journée de championnat avec en deuxième partie un retour en profondeur sur le Classico qui a souri au Real Madrid. Pour m'accompagner, le meilleur du jeu en triangle, Tracy, Rodrigo, Elton, Mokolo en plateau. Salut à vous.
Bonsoir.
Et à la régie, le basque bondissant Thomas Galarrague. On va débuter avec les grands perdants de cette 26e journée, à commencer par Atlético de Madrid, qui a concédé le match nul sur la pelouse de l'Espagnol, Elton.
Oui, exactement. Donc c'est un match où on voit l'Atlético de Madrid qui est retombé dans ses travers. Pourtant, il sortit d'une semaine encourageante avec notamment la victoire face à Liverpool et même le match face à Villarreal qui avait été très intéressant. On sait que ces dernières années, le déplacement du côté de Cornilla est très compliqué pour l'Atlético. Donc on a vu une équipe apathique sur la grande partie du jeu face à une équipe qui est l'Espagnol qui joue sa survie en Liga. Donc au final, on a eu un résultat logique parce que l'initiative était du côté de l'Espagnol, la réaction était du côté de l'Atlético.
Est-ce que l'Atlético est pas trop justement dans cette optique de réaction? Encore plus que d'habitude, j'ai envie de dire. Parce que dans le cholisme...
C'est la grande problématique du côté de l'Atlético cette saison. On sait que au niveau de l'animation offensive, il n'y a pas quelque chose qui est bien défini. Moi, j'aime à penser que Koke est très important dans l'animation offensive de l'Atlético. Et à partir du moment où tu n'es pas capable de l'alimenter sur la régularité, tu n'as pas d'autre alternative. Donc, on voit une équipe qui est très prévisible. Et à partir du moment où tu es prévisible, à partir du moment où ton utilisation du ballon est quand même très irrégulière, ça rend ce contenu qui perdure du côté de l'Atlético depuis le mois d'août.
Deux points de perdu sur la pelouse de l'Espagnol et donc cinquième place au classement et donc hors zone Ligue des Champions.
C'est dans la continuité de ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison. On voit que cette année, on est dans un objectif reconstruction par rapport à l'été dernier. Ça va être difficile pour se qualifier en Ligue des Champions. Donc il y a des points que tu n'as pas à perdre, notamment face à une équipe qui joue le maintien. L'Atlético n'a pas su mettre à profit les points perdus, notamment par Getafe ces deux dernières semaines. Donc aujourd'hui, ils sont à leur place.
Villarreal aussi parmi les perdants qui recule au classement, victime du regain de forme de l'Atlético à San Mamés. L'Atlético qui prépare un peu mieux, on va dire, dans les têtes la demi-retour de Copa, parce que ça sent un petit peu le roussi pour Gaisca Calitano ces derniers temps.
Oui, c'est ça, dans la mesure où on a vu l'Atlético Bilbao, malgré son bon parcours en Coupe du Roi, en Liga, c'était plus compliqué. On a vu que c'était une équipe qui faisait énormément de matchs nuls. Cette victoire vient un point nommé avant le match retour qui sera très important du côté de Grenade. En face, Villarreal, qui n'a pas su, entre guillemets, prendre les points qui auraient été nécessaires pour une hypothétique qualification européenne. Bon, on n'est pas joué dans l'absolu, mais on voit bien que du côté de San Mamés, c'est toujours un défi d'aller s'imposer là-bas. On voit un Bilbao qui a été au rendez-vous cette fois-ci.
Pas grand-chose d'autre à signaler sur ce match-là, non?
Non, pas grand-chose à signaler pour le coup. À savoir que on est dans un match, voilà, l'Atlético Bilbao était surtout dans une logique où fallait certes gagner, mais la partie la plus importante va se jouer du côté de Los Carlenes, et donc raison pour laquelle cette victoire va faire du bien. Et au niveau comptable, je suis pas sûr que ça amène l'Atlético Bilbao à quelque chose de plus concret aujourd'hui.
Alors il y a le Betis de Carles Alenia, n'est-ce pas Tracy, qui n'a pas joué à grand chose à Mestalla contre Valencia, qui n'a pas joué à grand chose non plus, mais qui l'a fait un tout petit peu mieux avec deux buts inscrits en deuxième période par Kevin Gamero, qui a mis une superbe frappe. Et le capitaine Dani Palermo avant la réduction du score de Lorraine. Alors après, je suis peut-être pas super objectif, mais vraiment Lorraine fait une faute avant de marquer. Je vois pas où va aller Valence. C'est catastrophique, quoi. Il y a rien.
Et alors où va aller le Bétis?
Mais alors où va le Bétis? Où va le Bétis? Parce que ne rien proposer à ce point-là, c'est une catastrophe. Et là, on repense aux supporters du Bétis qui en avaient marre de Quique Setién. Alors là, qu'est-ce que tu veux faire avec une équipe pareille, ça? Je comprends pas. Je comprends pas. Ils ont pris Alenia, il ne joue plus, alors ils mettent Guardado. Guardado, pour l'avoir vu un petit moment avant Valencia. Guardado, c'est pas. Guardado a une bonne période où c'était Setién, je crois, qui avait réussi un peu à leur faire un joueur un peu moyen plus. Mais bon, c'est un genre moyen, ce Guardado.
C'est assez compliqué ce qui se passe avec le Betis, parce qu'on en parlait il y a deux semaines, mais on a quand même l'impression de ce manque au milieu de terrain d'un vrai milieu récupérateur. L'une des raisons pour laquelle Guardado était titulaire et Alenia sur le banc. Mais on a vraiment cette impression d'un manque d'idées, un petit peu de ce qu'on retrouvait d'ailleurs avec Quique Setién. C'est assez à la fin de son mandat. C'est assez étrange ce qui se passe au Betis, mais c'est clair que ça sent le changement d'entraîneur, soit d'ailleurs cette saison ou en tout cas certainement cet été.
Et puis il y a Borja Iglesias qui reste un immense mystère cette saison. Ah oui,
voilà. Ouais, 18 millions, on peut pas dire qu'ils ont été bien rentabilisés pour l'instant. Après, c'est vrai qu'il a eu une première partie de saison compliquée avec sa blessure à la cheville. Toujours est-il que Borja Iglesias, c'est pas un bon rendu, mais après, c'est vrai qu'il est aussi la victime collatérale d'une équipe qui n'a pas d'identité bien définie. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'au sortir du mois de novembre, du mois de décembre, Roubier était en train d'implanter quelque chose qui était très intéressant, et là, il y a une baisse en termes de jeu. Et quand tu dépasses du côté de Mestalla et que tu proposes cette version, c'est très difficile de ressortir avec les trois points, indépendamment du fait que Valence a proposé une partition plutôt terne.
Mais ce qui est étonnant, c'est que Rubi et Iglesias, ça marchait très bien à l'Espagnol. Ça ne fonctionne plus. Et Borja Iglesias, ça fait penser un peu à la première saison de Dal Moreno à Villarreal, au final.
C'est vrai que le parallèle est intéressant. Du côté de l'Espagnol, Borja Iglesias est entre guillemets au bout de la chaîne du côté de cette équipe-là. Une équipe qui avait des mécanismes entre guillemets bien définis, notamment sur la deuxième partie de saison. Là, vous l'avez dit, à partir du moment où on a un milieu de terrain qui est assez mouvant et qui n'a pas de continuité dans la performance, c'est très difficile d'arriver à Borja Iglesias, qui n'est pas non plus un attaquant autosuffisant qui va prendre le ballon et qui va terminer tout seul. Non, il a besoin d'être accompagné à minimum, et pour l'instant, le rendu n'est pas là.
Pour finir sur ce match, Valencia a encore lâche commune, puisque Maxi Gomez s'est blessé au cinquième étatars et sera opéré et absent au moins un mois, donc il est out pour le match retour contre l'Atalanta, qui a un peu gagné 2-7 contre Lecce ce week-end, donc bon, voilà, qui fait un peu peur après le 4-1 de l'aller, et peut-être que Guillamon va rentrer dans la rotation pour le match retour de Ligue des Champions. Donc Hugo Guillamon, que le club n'a pas jugé bon de renouveler, mais il est libre de signer où il veut depuis le 1er janvier. Donc encore une très bonne planification de la part du meilleur président du monde, Anil Murti, qui se donne un 15/20, tellement il se sent fort.
Bref. Il aurait presque passé Bartomeu pour un très bon président.
Ah mais franchement, ouais, Anil Murti, tu l'écoutes, mais franchement, tu mets Casimir à la place, il est meilleur, quoi. Allez, je te jure, c'est zéro. Non mais là, Ferran Torres, il est pas sûr de re-signer. Comment tu peux te sortir? Alors là, faut aussi rendre un petit peu. C'est un peu la faute de Marcelino aussi, qui voulait le prêter, qui l'a mis quatrième option derrière paquet de monde, Soler et notamment Kangin. Puisque le club veut beaucoup investir sur Kangin, parce qu'il ramène des sponsors en Asie. Et donc, Ferran, il s'est fait la place tout seul, et du coup, il a explosé au moment où on l'attendait peut-être pas. Donc ça, le gamin, il s'en rappelle, quoi. Donc il a fêté ses 20 ans, d'ailleurs, le 29 février. Ce qui fait un point commun avec Gérard Darmon, notamment. Et voilà, si on sait jamais, si vous jouez un trigal poursuite, vous le saurez. Voilà. Mais c'est vrai que la gestion est pas bonne. Donc je sais pas vraiment où va le club, parce qu'en plus Alades n'a absolument pas les épaules. Alors là, une nouvelle fois, ceux qui connaissent un peu le ballon et qui étaient pas trop aveuglés, savaient que Alades n'avait pas les épaules. Ça a tenu ce que ça a tenu sur l'héritage Marcelino, puis là, bon, voilà, on se rend bien compte que comment dire, juste il applaudit et dit allez les gars, quoi. Voilà, en gros, quoi. Il y a rien de. Et puis en plus, enfin, je veux pas m'énerver, mais derrière on a Guedes, c'est juste pas possible, quoi. C'est vraiment. Là aussi, Marcelino, il a pas eu le nez très très creux là-dessus. Bon, après, indépendamment des blessures, mais Guedes, il progresse pas, quoi. Et ça c'est terrible à voir. Donc on va voir ce que donne ce Valencia jusqu'à la fin de saison, parce qu'il y a encore la possibilité d'aller en Ligue des Champions. Donc rien n'est perdu, mais ça va quand même être très 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 compliqué. Entre pas être qualifié en Coupe d'Europe et la Ligue des Champions, ce serait plutôt de côté pas de Coupe d'Europe qui serait l'option numéro 1 vu le jeu proposé. L'autre club de Valence, Levante, a pris cher à Aipurua contre Aibar, donc le Benjamin Brochetico. Et du coup, Aibar se donne de l'air en bas de tableau. Je rigole parce que
Levante a un peu fini sa saison.
Ouais, mais justement, on en parlait la semaine dernière avec Benjamin parce qu'on faisait on a fait un focus Paco López et on parlait d'Aibar. On disait Aibar a toujours une période où ils enchaînent les bons résultats pour se sauver. Et peut-être que ça va commencer par ça, notamment avec Charles qui a frôlé le triplé. Je sais pas si qui a vu le match.
J'ai pas vu personnellement.
J'ai vu une petite partie.
Alors, avec une passe décisive du magnifique Sergi Henrich, notamment sur le deuxième but.
Sur le deuxième but.
Et il a loupé un penalty. Il a très très mal tiré son penalty.
Il loupe le triplé, oui, mais Oriana, du coup.
Marc. C'est marrant parce que moi j'aurais pas mis Eibar vainqueur sur ce match-là en plus. Mais c'est vrai qu'il pour Roi, c'est toujours une bonne galère. Et puis ouais, comme tu dis. Levante, ventre mou, mais c'est vrai qu'on pouvait espérer autre chose, qu'ils aillent peut-être chercher un peu mieux si Gagny passait dans la première partie de tableau. Donc, mais bon, apparemment la saison, je pense que la saison se finit le 15 mars après le derby. Après, ils vont être assez tranquilles. Et bon, bref, pas grand-chose de plus à dire sur ce match. Alors, avant de faire la transition avec ceux qui ont pleinement profité de cette 26e journée, un mot rapide sur Grana Celta 0-0. Ni plus ni moins, voilà. Avec Yago Aspas.
Très triste, visiblement.
Ouais, Yago Aspas suspendu contre Getafe. Et Leganés à la baisse avec le retour du Picho Cuellar, Elton.
Ah, le grand Picho Cuellar, l'homme.
Il leur a manqué à Leganés, hein. Il leur a beaucoup manqué à Leganés.
Exactement, on sait que dans la perspective du maintien, tu auras besoin de ce type de joueur. Et donc, c'est vrai que dans l'idée d'Aguirre, l'idée étant d'avoir une assise défensive très importante, c'est là où il aura son rôle à jouer dans la perspective du maintien.
Et puis le 11e but de Lucas Pérez aussi, qui a failli me donner la victoire à l'Aves, mais justement Picho Cuellar s'est interposé, mais il a quand même 11 buts, c'est un sacré total pour un joueur espagnol. Est-ce que il aurait une petite un hueco, comme on dit pour l'Euro? Moi j'y crois pas, mais
C'est vrai que quand tu regardes le panorama des attaquants espagnols, aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont hors de forme. Tu voudrais te dire que Lucas Pérez, à l'instar de Jaime Mata l'an dernier, il pourrait avoir une place en sélection, mais moi, ça me paraît très difficile. Mais toujours est-il qu'il arrive au point pour vendredi 21h.
J'ai pas la référence.
À l'Aves Valence.
Ah oui, oui. Ah oui, oui, c'est... Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Ah, c'est
vrai.
Plus que c'était, hein.
Ah ouais, non, là, j'ai pas, j'attends plus, si tu veux, à un moment, j'attends plus les week-ends parce que je me dis, oh, que ça va être comme purge. Oui, c'est vrai. Ben, en plus, Lucas Pérez, qui avait refusé de signer à Valence, il y a deux saisons parce que c'était pas assez bien pour lui. Alors, on espère qu'il s'est bien régalé là où il a pas joué. Bon, 11 buts, ça me fait penser un peu à Borja Bastón, un peu ces profils-là, où il marque beaucoup de buts dans des clubs intermédiaires. Et après, bon, c'est un peu
qui
plus...
Qui était visiblement sur la liste, comme Martin Braithwaite pour le Barça,
c'est ça.
En tant que joker médical.
Oui, et oui, finalement. Mais on en reparlera de Martin Braithwaite un peu plus tard. Là, on va passer au grand vainqueur du week-end. Donc on a parlé de Valencia, mais il reste trois clubs, la Real Sociedad, Getafe et Séville, qui a vécu un drôle de match à Sanchez-Pizjuan, mais qui l'a emporté in extremis contre Osasuna, toujours privé du grand Jimmy Avil, mais ce qui lui permet d'accéder au podium, Elton, avec un très grand buteur marocain.
Exactement, mais ça a été un match assez bizarre, c'est-à-dire que Séville, sur la première partie, est un juste vainqueur, après en deuxième mi-temps, il y a une décompression dans le jeu, Osasuna en profite, et là on se disait que ça allait être très compliqué pour Séville, et t'as El Nissiri qui sort du bois en marquant ce doublé qui est très important dans la perspective de la qualification en Ligue des Champions. Donc on a vu un Séville qui certes remporte les 3 points, mais pour autant, par rapport à ce qu'ils avaient montré dimanche dernier face à Getafe, dans le jeu ça a été très poussif.
Est-ce que ça va tenir? Parce que je les trouve Séville très irréguliers, capables de. Là encore, ils ont pris 3 points, donc ça a voulu sourire. Mais contre l'Espagnol, ça avait perdu 2 points. Toujours l'impression que Lopetegui n'arrive pas à imposer clairement sa patte. Il y a même eu des sifflets contre lui. Il y a pas si longtemps, notamment en Europa League. C'est une saison paradoxale et pourtant ils sont troisième.
Exactement. Moi, cette saison, personnellement, j'ai été un peu déçu de l'approche de Lopetegui. Je pensais que son équipe serait davantage proactive, elle aurait davantage le sens de l'initiative. Mais c'est peut-être aussi, quelque part, l'une des problématiques de la planification sportive de Séville depuis plusieurs saisons, à savoir que Lopetegui fait en fonction de son effectif. Donc Lopetegui a mis davantage une équipe qui était réactive, avec notamment des joueurs comme Fernando qui ont été très importants cette saison. Et du coup, on voit bien que dans la continuité, dans l'idée d'apporter du jeu, ça reste encore poussif.
Question pour tous les deux. Est-ce que, s'il y a un 11 de l'année à faire, est-ce qu'il n'y aurait pas Lucas Ocampos à mettre en attaque?
Ah, il n'est pas loin. Il n'est pas loin pour tout dire, parce que c'est vrai que nous, on a le prisme français avec la Ligue 1 et Lucas Ocampos qui n'était pas non plus le joueur le plus gracieux. Mais force est de constater que déjà, en rapport qualité-prix, c'est l'un des meilleurs transferts de la Liga, si ce n'est le meilleur transfert cette saison. Et il peut prétendre avoir une place dans l'équipe type.
Et puis, il y a la régularité. On pensait un peu quand même que ce serait un tube de début de saison. Ok, il arrive, il est bon. Mais finalement, il y a eu un petit coup de mou vers décembre ou un petit peu avant. Et en fait, il est vite revenu, et la régularité qu'il a et d'être toujours l'un des joueurs importants avec Jesús Navas et d'autres à côté Séville, c'est quand même impressionnant.
Le vendredi, pour ouvrir la 26e journée, la Real Sociedad a battu le Valladolid du grand Hatem Ben Arfa, qui n'était pas convoqué pour la troisième fois. Donc 11 petites minutes depuis qu'il est arrivé, avec, et sa meilleure action, c'est son échauffement, qui a fait le tour d'Espagne et des réseaux sociaux. Donc bon, pour l'instant, c'est très très surprenant le fait qu'Hatem Ben Arfa ne joue pas avec le Real Valladolid. Bref, ceux qui ont cru qu'il allait tout de suite rentrer dans la rotation, je crois qu'ils reconnaissent pas bien la Liga et pas bien le Real Valladolid. Bref, but de Januzaj à l'heure de jeu, et la Real Sociedad qui continue de bien marcher. Est-ce que ce serait pas eux les contenders numéro 1 pour aller chercher la place en Ligue des Champions?
Pour moi, pour le coup, là, j'ai davantage de doutes. Pas par rapport à la qualité offensive, mais par rapport à la qualité défensive. Pour moi, ça me coûte de penser, je vais te donner un exemple, du côté de Séville, on a une régularité défensive qui est quand même plus importante. À Real Sociedad, il y a quand même, entre guillemets, un manque qualitatif à ce poste-là. Et moi, j'aime à penser que dans la perspective de la qualification en Liga, il faudra quand même baisser de manière significative ton nombre de buts encaissés. Donc au final, moi, c'est la limite pour les voir en Ligue des Champions.
Prochain match, je crois que c'est contre le Barça. C'est
oui.
Ça.
Alors ça. 18h30.
Parce que Marca a mis les matchs à risque pour les deux équipes, entre avec le Real Madrid et le Barça pour le titre, et le Real Sociedad n'est pas cité comme match à risque. Alors les matchs Valencia par exemple est un match à risque et pas le Real Sociedad, ce que je trouve un petit peu étonnant vu les formes actuelles des deux clubs.
Ouais, ce n'est pas un match à risque dans le sens où c'est à domicile.
Oui.
Enfin, je dis pas que je ne suis pas d'accord. Mais cette réflexion que le Barça arrivera toujours à s'en sortir à domicile, c'est quelque chose qui persiste maintenant depuis bien longtemps.
Dernier match.
D'ailleurs, ils ont réussi à battre Retafe, ce qui était quand même.
Oui, tout à fait. Un petit peu. Ouais. Est-ce qu'il y a réellement faute d'Alanium sur l'ouverture du score?
Oui.
Oui, bien sûr. Mais non, mais parce qu'il a joué à Arles et c'est tout. Je suis mauvaise foi. Dernier match avant de parler du Classico, Mallorca Retafe, donc à San Moix, et victoire 1-0 de du Reta. Si c'est pas Jaime Mata, si c'est pas Angel Rodriguez, si c'est pas Jorge Molina, bah c'est le grand Nemanja Maximović qui a mis un super coup de casque. Il marque pas souvent Maximović, mais alors quand il marque, ça compte. Celui-là, les trois points sont cruciaux.
Et ça ponctue une belle semaine pour Maximović, que j'avais trouvé très très bon du côté de la Johan Cruyff Arena. Et après, comme tu l'as dit, on était justement J+3 après cette performance historique, enfin entre guillemets historique pour Retafe. On aurait pu penser qu'il y aurait une décompression à l'instar de ce qui s'était passé dimanche dernier. Il n'en a rien été. Bordalas l'avait dit en conférence de presse d'avant-match, à savoir que Mallorca allait rendre les choses très compliquées. Il avait notamment évoqué le match de Valence pour dire que ça pouvait être entre guillemets un danger potentiel. Donc ils ont fait leur devoir. ils prennent 3 points qui sont très importants dans la perspective de la qualification en Ligue des Champions. Ou moi, à la différence de la Real Sociedad, pour le coup, moi j'ai moins de doutes par rapport à Retafe.
Ils ont été extrêmement pénibles contre l'Ajax. Ça a été vite plié, ils ont mis un but tout de suite avec Raymond Matin, et l'Ajax a pété les plombs. A pété les plombs face au Vandalisme, en fait. Ils s'étaient déjà fait avoir au match aller, et au match retour, ils sont encore tombés dedans, c'est terrible.
Exactement, ça a été le problème pour l'Ajax, à savoir que Retafe est entré dans le cerveau de ses joueurs. Et donc à partir du moment où ils ont déjoué mentalement, c'était très difficile de rester sur ta ligne de conduite et de continuer à faire ce que tu sais faire habituellement. Donc grand mérite à Retafe, même si la méthode est toujours clivante, à savoir notamment sur le temps effectif de jeu, il y aura toujours à redire, mais toujours est-il qu'ils ont conclu le principal objectif qui était de se qualifier en 8e de finale.
Et le plus grand miracle du Vandalisme, moi, c'est d'avoir trouvé des supporters de Retafe.
Ah, ça n'engage que toi pour le coup.
Non, par cache plein. Non, Retafe, il y a des années, c'était plein que pour le Real Madrid, quoi. Faut être lucide. Là, ça fait, c'est vrai que depuis que, après, c'est évident, quand t'as des résultats, c'est vrai que ça aide un peu, mais quand tu compares le traitement des supporters à Leganés et au Reta, il y a quand même une très très bonne différence. Le Lega a beaucoup plus travaillé là-dessus que Retafe. Donc c'est là maintenant ça se voit moins parce qu'effectivement t'as une des meilleures équipes tactiquement en Europe. Je pense qu'il y a pas beaucoup d'égal. D'ailleurs, petit pronostic, est-ce que vous voyez Retafe passer contre l'Inter?
Oui.
Oui.
Oui. Je confirme. Moi aussi, je les vois. Je pense que l'Inter déjà va complètement laisser passer l'Europa League.
C'est sûr que du côté de l'Inter, s'ils jouent toujours pas de match, ils risquent d'arriver un peu à court de forme.
Donc, oui, c'est problématique. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah oui, non. C'est vrai que l'histoire du coronavirus, ça peut gêner pas mal de clubs. Mais je pense même avec ça que l'objectif est clairement d'aller chercher le titre en Italie et que ils vont peut-être laisser de côté la C3 pour des raisons de maintien de comment dire pour garder la forme en fait pour
ouais,
éviter,
c'est ça, parce
éviter
que
les déplacements le éviter les blessures aussi.
Le match aller est déjà dans 10 jours, donc ça vient très vite.
Petite conclusion sur cette belle journée de championnat. Ou est-ce qu'on passe à la deuxième partie?
Sur la conclusion, ça va amener la deuxième partie. Il y a un changement avec le leader, un changement qui est pour l'instant honorifique parce que dans l'absolu, il n'y a qu'un point. Taritafe qui se reprend après 2 derniers matchs qui étaient très compliqués. Bon, c'était 2 derniers matchs face au Barça, face au FC Séville. Donc, il y a une certaine logique à ce qu'ils perdent des points. Et donc, au final, c'est très important. Et du côté du bas de tableau, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à la semaine dernière où il y avait eu davantage d'enseignements.
Est-ce que vous pensez que l'Espagnol et Leganés peuvent s'en sortir?
Il y a 2 semaines, on avait dit oui. Il n'y a pas eu de changement depuis. Enfin, en tout cas, au classement. Mais je pense toujours que l'Espagnol peut s'en sortir. J'ai un peu plus de doutes pour Leganés.
Elton?
Alors moi, j'aurais tendance à dire pour Leganés, ça risque d'être très compliqué parce que offensivement, ils ont été, ils ont plus grand chose. Le salut passera par l'assise défensive et même là, j'ai des doutes. Pour le coup, l'Espagnol, je sais qu'Abelardo il est coutumier du fait, donc j'ai tendance à les voir se sauver. Parce que tu peux compter sur Raúl de Tomás qui, par rapport au matériel offensif, qui est très important, c'est une très bonne recrue. On sait que Vargas, c'est la déception pour moi du côté de l'Espagnol, donc ils ont su se réajuster, et donc moi je les vois se sauver. Maintenant qui va descendre, Leganés, Mallorca me paraît, entre guillemets, un bon candidat pour descendre, mais le troisième relégable, c'est très ouvert.
C'est la deuxième partie de ce Folia Liga podcast consacré à la 27e journée de championnat. Elle est évidemment consacrée au Classico remporté par le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Cette victoire permet au Melengue de reprendre la tête au détriment du Barça qui n'est plus perdu un Classico depuis 2014. Alors, Tracy, Elton, première question. Est-ce que, comme Piqué, vous avez trouvé que ce Real Madrid était le plus faible depuis très longtemps? Tracy meurt d'envie, j'ai l'impression de répondre la première.
J'ai toujours l'impression d'être l'avocate de Gérard Piqué. C'est un rôle que j'ai accepté depuis bien longtemps. Non, mais j'ai vu qu'il s'était fait un peu casser pour cette déclaration. Alors déjà Piqué, c'est un communicant. On sait très bien que ce qu'il fait, il ne le fait jamais par hasard. C'est une façon de dédramatiser un peu ce match-là. Alors après, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Dire que le Real est l'un des pires Reals qu'il a rencontré, je pense qu'il exagère un petit peu. Après, ce n'est pas parce que le Real a battu le Barça que forcément le Real a été excellent. Le Real a pas fait une bonne première mi-temps. Le Barça, disons, comme assez souvent n'a pas tenu plus que 50-60 minutes, ce qui est assez problématique lorsque les matchs en durent 90. Et on a un Real qui, lui, par contre, a su retrouver, j'ai envie de dire, son esprit Ligue des Champions. Quand ce Real commence en fait à se réveiller, que ses joueurs commencent presque à devenir comme les meilleurs joueurs du monde, comme s'ils se sentaient en tout cas comme les meilleurs joueurs du monde. Et le Barça, lui, s'est un petit peu dégonflé totalement. Après, bien sûr que non, ce n'est pas le pire Real que Piqué a rencontré. J'ai envie de dire, c'est un Real de Zidane.
Alors Elton, moi j'ai une deuxième grille de lecture par rapport à cette déclaration de Piqué. Alors Tracy, tu me diras peut-être que toi qui es l'experte Piqué de Fourier. Moi, je vois cette déclaration comme une énorme pique envoyée aux dirigeants du Barça en disant on a joué le pire Real Madrid depuis très longtemps et nous on a perdu contre cette équipe là. Moi je le lis comme un énorme scud. Il fait regarder où on en est, quoi. Regardez l'équipe qu'on a, quoi.
Ouais, c'est quand même assez sibyllin de la part de Gérard Piqué, encore qu'il est coutumier du fait. Moi je serais à mi-chemin, c'est-à-dire que effectivement c'est très important de dire qu'il a commencé par dire que en 2017, il n'avait eu aucun mal à reconnaître que le Real était une équipe qui était à des années-lumière devant le Barça. C'était juste après la Supercoupe d'Espagne. Après, il a dit que c'était l'un des Reals qui transmettait les pires sensations depuis quelques saisons. Donc moi, je n'irais pas jusqu'à dire que le Real, c'est la pire équipe. Enfin, ce Real-là, c'est la pire équipe ces dernières années. Toujours est-il qu'au niveau du jeu, c'est vrai que c'est pas un Real non plus flamboyant. Mais comparativement, le Barça n'est pas non plus très avancé. Et c'est vrai que on peut lire quelque part, on peut avoir une grille de lecture où le Barça, c'est vrai que ils sont pas à la joie. Il y a une planification sportive qu'on a ressassé en long, large et travers depuis le mois d'août. Et donc on voit bien Gérard Piqué qui est agacé de sortir de ce match-là.
Précis.
Oui, non, mais je pense que les, d'ailleurs beaucoup de joueurs ont parlé. On a eu Nelson Semedo, on a eu Messi, on a eu plein de joueurs qui ont critiqué, mais de façon assez subtile, la programmation du Barça avec cet effectif qu'on a dit très court. Il suffisait de voir les bancs au début du Classico pour comprendre dans quelle situation se trouve le Barça. Après Piqué, effectivement, je pense que c'est aussi une façon de dire on est face à un Real moyen et pourtant regardez, on n'arrive pas à les battre. Mais on peut aussi voir la chose différemment, c'est que le Real Madrid finalement se retrouve face à un Barça qui est dans une crise institutionnelle inédite depuis des années. Je pense que beaucoup ne réalisent pas à quel point c'est profond et à quel point ça touche absolument toute la hiérarchie au sein du club, que ça de la direction jusqu'aux entraîneurs, etc. Et on peut voir aussi ça d'une différente de la façon suivante, c'est que le Real finalement n'a qu'un point d'avance sur un Barça qui est dans un chaos total avec un Messi qui, je pense, n'est pas apte physiquement. Sans parler d'un Jordi Alba qui a joué sur une jambe parce que Junior Firpo était auteur de prestations assez difficiles ces derniers temps. Et du coup, oui, on peut lire la chose différemment. Le Real, pour moi, devrait avoir plus de points d'avance, bien que eux aussi aient leurs problèmes. On est quand même dans une situation bien plus problématique au Barça.
Alors pour revenir au match, il y a un élément déterminant de cette défaite blaugrana, c'est le niveau du milieu de terrain. Alors Vidal, perdu sur un côté, De Jong absent, Arthur convenable en première période, puis après totalement porté disparu. Et Busquets, nos bouchis, nos parties, mais bon, à un moment, il peut pas tout colmater. Et on a eu l'impression que dans un match rythmé, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'engagement, mais ça n'a pas été le match du siècle, c'était quand même, il n'y a pas eu de temps mort, le milieu du Barça, il avait une autonomie de 20 minutes maximum. Contrairement au Real, qui est pas, comment dire, ils sont pas extravagants, mais ils ont vraiment mis la main sur le match en deuxième mi-temps. Le Barça, en première mi-temps, il y a eu 15-20 minutes de...
mi-temps. Hein.
Ouais, mais t'as eu 15-20 minutes de bonne du Barça avec une bonne intensité, puis après ça a plongé quoi. Ils ont un quart de match dans les jambes. C'est terrible.
J'ai regardé une partie du match tout à l'heure et j'avais vu quelque chose qui m'avait perturbé lors du direct et c'est pour ça que j'ai voulu revoir. Et en fait, à la 38e minute, le Real a une action. Et en fait, le Barça va pour partir en contre, donc bien sûr que le Barça ne contre-attaque pas, déjà n'a pas les joueurs pour. Mais surtout, les joueurs ont tellement eu de mal à se replacer, ont tellement traîné à se replacer que j'ai cru qu'il y avait une blessure de Courtois ou, enfin, de Ter Stegen, tellement que les joueurs du Barça à la 38e minute, première mi-temps, on avait même plus le courage, on aurait dit, de partir se replacer ou de jouer le contre, de prendre un peu l'espace. Et du coup, on s'est retrouvé avec des contres qui ne se jouaient jamais. On a vraiment l'impression d'un Barça totalement mort physiquement. C'est le cas de le dire. Ce qui est assez compréhensible quand on voit le banc et la largeur de l'effectif. Mais pour le coup, j'ai du mal à croire que Setién soit responsable. Voilà, ce n'est pas lui qui était là lors de la préparation de début de saison. Mais c'est assez effrayant de voir ça parce qu'on a en plus l'impression que les joueurs présents ne sont pas à 100% physiquement. Donc voilà, j'ai parlé de Messi, Jordi Alba, Semedo aussi a l'air d'avoir eu un coup dans le match qui y a eu un avant-après où il a été très bon avant et après voilà. Donc c'est quand même assez problématique et face à un Real qui lui, comme je disais, a toujours son âme Ligue des Champions qui peut apparaître à tout moment, c'est-à-dire je pense pas vraiment que le Real ait été au-dessus du Barça tactiquement parlant, mais par contre il l'a été mentalement et physiquement. On peut pas toujours, même si on aime bien le faire, on peut pas toujours tout expliquer par la tactique. Et là pour le coup sur ce match-là, je pense que le Real l'a gagné avec l'intensité et avec un mental, sans vouloir dire que le Barça n'a pas de mental, mais le Real sait se sublimer et surtout sait se sublimer quand l'équipe en face n'est pas capable de tenir plus de 60 minutes physiquement.
Alors justement, est-ce que après avoir joué plusieurs saisons avec Valverde, est-ce que passer du train de sénateur de Valverde à Quique Setién qui demande énormément de dépenses physiques dans sa conception du jeu, est-ce que c'est pas suicidaire? Parce que dans les gros matchs où il y a beaucoup d'intensité, où il faut aussi amener du mental, il n'arrive plus à avoir la combinaison de ces deux facteurs qui sont essentiels pour performer.
Pour le coup, je vais me faire en partie l'avocat d'Ernesto Valverde, à savoir que la problématique physique, elle existe bien avant.
C'est avant lui, oui. Luis Enrique même.
Exactement, c'était le leitmotiv de Luis Enrique, récupérer l'intensité. C'est-à-dire que après le 3-0 à Turin, t'as Luis Enrique qui était remonté contre ses joueurs parce que physiquement parlant, au niveau de l'intensité, ils n'étaient pas dedans et ils les avaient vertement critiqués. Donc, on n'a pas attendu Ernesto Valverde pour voir cette problématique.
Bien sûr.
C'est vrai, c'est-à-dire que Ernesto Valverde. Cette problématique, elle s'est accentuée parce qu'on a vu une équipe qui, après l'heure de jeu, avait énormément de mal à répéter les efforts. Et on sait que dans le football d'aujourd'hui, l'intensité, on l'a demandé énormément. Si tu veux, on a plus besoin d'avoir de David Ferrer que de Roger Federer. Ça ne veut pas dire dans l'absolu que Roger Federer, il n'a pas de physique, mais l'idée est là, c'est-à-dire que on a besoin d'être au point physiquement pour justement avoir une tactique qui soit efficace. Moi, j'aime à penser que le physique, enfin, l'aspect physique doit être adossé à la tactique. Et à partir du moment où le Real est monté d'un cran au niveau physique avec le pressing qui a été assez intense, on n'a pas vu un Barça capable de répondre aussi bien tactiquement que physiquement, où on a vu notamment Arthur après l'heure de jeu, il n'en pouvait plus.
Alors justement, j'ai envie de parler de deux joueurs de chaque équipe dans ce match-là. Tu viens de parler d'Arthur, justement j'ai une question polémique. C'est est-ce qu'il n'est pas surévalué par une partie de l'aficion par rapport à ce qu'il vaut vraiment? Alors je m'explique. Il y a à la fois ce besoin de trouver un hérité à Xabi Hernández et aussi d'enfoncer encore davantage, si c'était possible, Ivan Rakitic. Hier, moi, je l'ai trouvé, comme on dit, de poca sangre, jamais dans le dépassement de fonction. Et puis alors, le point d'orgue, c'est l'action et le face-à-face avec Courtois. C'est-à-dire, non seulement comment Griezmann lui le lance, et après, il regarde tout sauf le positionnement de Courtois dans son duel. Il a peut-être beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, ce qu'on veut, mais il est jamais dans. Ouais, il a, je sais pas, il m'énerve en fait. Il m'énerve parce qu'en fait, il fait passeur de plat au final. Alors c'est peut-être un très bon passeur de plat.
Mais il a un langage corporel extrêmement quand même frustrant.
Non mais hier, il est bon un quart d'heure. Il est bon un quart d'heure. Après, je trouvais que le 3 dans l'équipe est un peu sévère. Moi, j'ai mis 6. Non, j'ai mis 5. 6 première mi-temps, 4 deuxième mi-temps. Mais franchement, c'est quand même pas terrible parce que à un moment, je comprends aussi pourquoi il joue pas autant, quoi. Pourquoi au bout d'un moment à l'entraînement, qu'est-ce qu'il doit montrer pour que Rakitic lui passe devant? C'est problématique quand même.
Rakitic, moi, j'ai bien Sergio Roberto.
Oui, moi je veux bien qu'il ait.
D'ailleurs, peut-être Sergio Roberto aurait joué ce match-là s'il n'avait pas été blessé. C'est bien possible, et je pense. D'ailleurs.
Non, mais en plus, ça fait quoi? Ça fait plus de 2 ans qu'il est là, Arthur Melo. Donc à un moment, c'est bon, il fait partie du club. Il est pas.
Sa 10e saison.
Ouais, tu vois, il est arrivé en janvier 2018. Donc c'est bon, dans un moment, tu sais comment ça joue, tu connais tes coéquipiers. Tu as De Jong, on peut encore lui trouver des excuses. Il vient d'arriver, bon, c'est un de ses premiers classicos, son premier à l'extérieur. Bon, voilà, tu peux comprendre qu'il soit un peu inhibé. Mais alors, Arthur Melo, 2 ans, il sait très bien que ça va se reposer beaucoup sur lui. Il a un quart d'heure dans les jambes. Alors, la dernière demi-heure, là, il est baissé de rideau à vendre, quoi. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'électricité, plus rien.
Alors, pour défendre Arthur, enfin, pour le défendre oui et non, j'ai écrit sur lui, du coup, le jour du Classico, avant le match, et je me posais la question de savoir si, à l'heure actuelle, en tout cas dans une équipe du Barça à mi-saison, avec un entraîneur qui arrive à mi-saison, est-ce que réellement De Jong et Arthur peuvent jouer ensemble, sachant que ils ont, pour moi, un petit peu la même problématique, c'est-à-dire ce jeu sans ballon, j'ai titré Toka et Nada pour Arthur parce que, voilà, il passe le ballon et puis après, rien. Il oublie de bouger, il oublie d'être en mouvement, il oublie de prendre les espaces laissés libres. Il oublie de se mettre entre les lignes. De Jong avait aussi un petit peu ce problème. Après, De Jong a mieux progressé, je trouve, parce que aussi joue plus probablement que Arthur. On a un problème parce qu'on a, ce sont deux joueurs qui aiment prendre le jeu très bas, qui aiment partir proche de Busquets, voire même derrière Busquets. Et du coup, ça laisse, disons, un blanc. Ça manque du coup d'un joueur d'un vrai 8 qui va réellement prendre le jeu à son compte, prendre les espaces. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour revenir sur le Betis tout à l'heure, que moi le départ d'Alenia encore et toujours, je ne le comprends pas et je ne le comprendrai pas, parce que c'est le seul joueur qui avait ce profil-là. On peut me parler du niveau, est-ce qu'il a le niveau, est-ce qu'il n'a pas le niveau, mais qui a le niveau actuellement dans ce Barça-là? Ils sont très peu. Alenia ou Arthur, finalement, ça se vaut. Si on me dit aujourd'hui qu'Alenia est mieux au Betis, alors que c'est assez ironique, mais le Betis n'a pas besoin de lui. Le Betis a déjà ces joueurs-là, a déjà des joueurs de son profil. Et ce qui se passe d'ailleurs quand Guardado revient, c'est que Alenia se retrouve sur le banc, pas forcément parce qu'il est mauvais, parce qu'il fait pas une mauvaise saison avec le Betis, mais parce que son profil existe déjà. Au Barça, il n'existe pas. Et pourtant, le Barça a prêté ce joueur au Betis, qui n'en avait pas besoin, mais eux, le Barça qui en avait besoin, ils n'ont pas gardé. Le Barça n'a pas ce profil, sachant qu'en plus, Alenia peut jouer, il l'a déjà fait en deuxième division quand le Barça B était en deuxième division. Il peut être ce joueur un peu à la Rafinha, voilà, ce milieu un petit peu ailier. Donc c'est quand même assez problématique. Encore une fois, on en revient à la à la politique, à Erika Vidal, etc. On va pas en reparler, mais c'est quand même problématique de s'être débarrassé d'un profil qui aurait pu servir.
Elton?
Déjà sur Arthur, il a un cadre. On en parlera peut-être avec Vinicius, mais la politique sportive des deux gros clubs espagnols ces dernières années, c'est-à-dire que on arrive sur des joueurs qui, dans l'absolu, sont pas des joueurs faits. Arthur, ça reste un joueur en apprentissage. Il arrive en juin 2018. Il y a des hauts et il y a des bas. Et tout est compacté dans ce même match où on peut pas lui enlever le fait que sur les actions les plus dangereuses, il est impliqué, notamment la passe pour Messi, le face-à-face. En deuxième mi-temps, il plonge. C'est-à-dire, c'est un joueur qui n'a pas encore cette distance pour être un titulaire indiscutable au Barça. Il est titulaire au Barça par la force des choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as pas un milieu de terrain qui est fonctionnel, tu vas essayer d'avoir un joueur type Arthur pour t'assurer au moins une heure de jeu. Mais tu vois bien qu'au-delà de cette heure de jeu, Arthur, ça devient très compliqué. Et c'est une récurrence. C'est pour ça que c'est vrai qu'il y a la problématique de la pubalgie, mais il n'empêche que aujourd'hui, hormis Busquets, tu peux pas t'appuyer énormément sur beaucoup de certitudes à ce poste-là. Et Arthur en fait partie. Maintenant, faut pas oublier qu'en début de saison, il avait bien commencé, où il était dans un rôle plus vertical, et là, il retombe dans ses travers.
Oui, c'est.
Oui, on avait vu une bonne complémentarité en début de saison entre De Jong et Arthur. Quand je disais, est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? On avait vu un petit peu, c'était encore, bien sûr, c'était au tout début, mais on avait vu, on était quand même un petit peu emballé. On s'était dit, c'est possible. Finalement, ils peuvent peut-être jouer tous les deux. Après, Rakitic, les résultats ont été un petit peu plus mauvais. Rakitic est revenu sur le devant de la scène. Arthur a eu sa pubalgie et ça s'est vite arrêté. Donc c'est vrai qu'il y a ce problème-là, mais il y a ce problème vraiment de régularité et de joueurs qui ne semblent pas au point physiquement. Autant Arthur, et c'était déjà le cas la saison dernière pour Arthur, et c'est le cas aussi. On a l'impression qu'il ne peut pas jouer, en tout cas à haut niveau, plus de 60 minutes, et ce n'est pas le seul.
Et moi, ce qui me dérange du côté d'Arthur, c'est son activité sans ballon.
Totalement.
C'était moins prononcé, mais par exemple, contre Retafé, t'as envie de t'arracher les cheveux. C'est-à-dire que dans l'absolu, sur 90 minutes, un joueur de foot a le ballon pendant 3 minutes. Tu fais quoi pendant 87 minutes? Faut être actif, faut créer des lignes de passe. Et on sait qu'Arthur, il a énormément de mal à vivre entre les lignes. Donc aujourd'hui, Étienne, il est dans une logique où il se dit que par rapport à ce qu'il veut demander, notamment sur les joueurs qui ont la capacité à vivre entre les lignes. Et d'ailleurs, Étienne, dans son interview à l'Avant-Gardia, peut-être que il parle aussi d'Arthur, mais c'est joueurs qui sont capables d'être dans des zones et d'apporter quelque chose sans ballon. Donc, Setién, il se dit quoi? Je vais mettre De Jong qui a davantage de résistance physique pour qu'il fasse élément de liaison, alors qu'Arthur, il vit davantage avec le ballon. Mais sans, c'est plus compliqué.
Tout à fait.
Le joueur du Real Madrid que je voulais mettre en valeur, c'est Vinicius. Il était très attendu et il a répondu présent. Je sais pas comment vous analysez son match tous les deux. Moi, je trouvais le premier mi-temps très viniciesque en quelque sorte. C'est-à-dire que beaucoup de volonté, mais finalement très peu de conclusions. Il s'est toujours un petit peu brouillon. Après, c'est normal. C'est un joueur qui a 19 ans, donc on peut pas non plus exiger qu'un joueur de 19 ans soit fini. Mais au bout d'un moment, l'activité, ça paye, quoi. Et là, c'est lui qui ouvre le score. Et puis à un moment, il y a un truc qui est intéressant dans le but, c'est que il se rend compte qu'il peut frapper. Et il a une spontanéité là-dedans. C'est que peut-être que les joueurs du Barça l'ont pas, ou peut-être non plus. C'est qu'il cherche absolument Messi absolument. Et puis lui, en fait, peut-être qu'il aura il en fait chercher Benzema, il a chercher Isco. Et en fait, il dit non, je vais la frapper. Et finalement, ça lui sourit parce que Piqué la dévie. Et d'ailleurs, il y a un mouvement intéressant de Carvajal. Alors, je sais pas ce que faisait Carvajal là. Alors après, il faudra m'expliquer. Mais Carvajal, il ouvre la porte en fait à Vinicius parce que Piqué, il pense qu'il va la mettre en retrait à Carvajal. J'ai l'impression.
Ouais, il y a eu un mauvais alignement du côté du Barça et qui a profité à Vinicius. Faut pas oublier aussi le rôle de Benzema qui aspire Semedo, et à partir du moment où il aspire Semedo, la Braithwaite, je ne sais pas pourquoi il se retrouve en position de latéral droit. Donc Toni Kroos a l'intelligence de voir la situation et de lancer Vinicius. Après, tu as Piqué qui justement regarde Carvajal, et le temps de voir Carvajal, Vinicius il est proche du but et il marque. Mais ce que j'ai envie de relever du côté de Vinicius, avant un peu de le critiquer, c'est-à-dire que Vinicius, on ne peut pas lui enlever le fait qu'il a une haute estime de lui-même. C'est-à-dire que qu'importe qu'il soit en échec, il va continuer inlassablement. Et ça, pour un joueur qui est au Real Madrid, c'est quelque chose qui est à signaler. Maintenant, on sait que dans un gros match, à l'avenir, il ne peut pas avoir 10 occasions et n'en mettre qu'une. Ça peut être rédhibitoire, notamment sur un quart de finale de Ligue des Champions. On l'a vu pas plus tard que mercredi, où certes, il fait une passe décisive, mais il y a énormément de déchets. Mais maintenant, encore une fois, c'est ce que je disais par rapport à Arthur, et ça vaut aussi pour Vinicius. Pourquoi Vinicius, dans l'absolu, est titulaire au Real Madrid? C'est-à-dire que, dans la planification sportive, le joueur qui devait incarner cet aspect déséquilibre, cet aspect « je vais prendre le ballon, je vais aller provoquer », c'était Eden Hazard. Derrière, il n'y a pas une alternative. L'alternative, elle s'appelle aujourd'hui Vinicius. Donc, il y a un gap qualitatif qui s'en ressent, et ça se voit au niveau des pertes de Vinicius.
Oui, c'est un joueur qui perd énormément, qui provoque, et du coup, perd énormément de ballons. Un petit côté Dembélé, Tracy, dans cette façon de...
Non. Tu veux m'énerver aujourd'hui.
This is not a meta, this is a provocation. J'ai fait exprès. Non, mais au final aussi, mentalement aussi, il est fort parce que finalement, il était ce rôle de deuxième pointe en quelque sorte, et de aussi de remplaçant d'Hazard, comme tu as dit Elton. Il faut quand même s'en charger, quoi. C'est pas évident pour un joueur aussi jeune dans un club comme le Real.
D'ailleurs, beaucoup ont fait le parallèle avec Ansu Fati de l'autre côté. Zidane, lui, a fait confiance à Vinicius, mais Setién, lui, de son côté, a préféré titulariser Arturo Vidal.
Bah, il a été bon, Arturo Vidal.
Non. Et du coup, Ansu Fati, qui d'ailleurs, alors, je sais pas si Ansu Fati aurait dû être titulaire ou pas, mais en tout cas, rentrer plus rapidement, ça oui.
Mais après, pour Vinicius, pour revenir sur son cas, c'est vrai qu'il était dans un rôle très ingrat. Ça vaut aussi bien pour Vinicius que Benzema. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Real est une équipe qui attaque de très très loin, Vinicius, il n'a pas beaucoup de joueurs sur qui s'appuyer. C'est-à-dire que on a vu des séquences caricaturales où Vinicius, il était en train de jouer des 1 contre 3. Et ça, c'est très compliqué quand on a un joueur comme Vinicius. La prise de décision, elle n'est pas toujours la plus optimale, et donc ça se ressent notamment au niveau de la finition. Donc moi, j'aurais tendance, entre guillemets, à dire, c'est vrai que la première mi-temps, il est agaçant, mais il y a aussi un contexte à prendre en compte.
T'as raison, Elton, parce que en première mi-temps, il est très souvent seul, et c'est d'ailleurs pour ça que Semedo s'en sort plutôt bien en première mi-temps face à lui. Et c'est ensuite quand on vient aider Vinicius, quand on se rapproche un peu plus de lui, ou que lui d'ailleurs arrive un peu plus à se mettre au diapason de Benzema, que là, le Real devient un peu plus dangereux.
Bah pour caricaturer, en première mi-temps, il a 40 mètres à faire avec le ballon. En deuxième mi-temps, notamment sur le but, il a 10 mètres à faire. Et ça fait la différence.
Il y a un problème de coordination au niveau du milieu de terrain, Elton, au Real, sur ce match-là?
Oui. Après, c'est vrai que c'est la problématique cette saison du côté du Real, où si on arrive à bien presser collectivement sans ballon... C'est vrai que dans l'utilisation du ballon, il y a encore des choses qui sont très scolaires et qui ne sont pas très abouties. Donc ça se ressent notamment au niveau des derniers mètres où les attaquants ne sont pas les mieux lancés. On voit bien qu'un cross en première mi-temps, c'était compliqué, notamment sur ses courses défensives avec Arthur. En deuxième mi-temps, cross a incarné cette idée de révolution avec des interceptions qui ont été très intéressantes. Et on voit bien que du côté du Real, il y a un manque de déséquilibre avec le ballon. C'est-à-dire que c'est une équipe qui passe énormément par les côtés. On compte sur les latéraux pour apporter les centres qui vont faire la différence, mais ça ne suffit pas. Et le dernier mois, c'est la symbolique, à savoir qu'on a vu un Real qui a été très très prévisible, avec notamment des milieux de terrain qui n'apportaient pas grand-chose.
Pour terminer cette deuxième partie, il y a deux joueurs qui ont fait une petite sensation en fin de match. Attention, estampillé Ligue 1. Attention, Martin Braithwaite et Mariano Diaz, qui lui a plié le match. Premier ballon touché en Liga de la saison, but classico. Ça, c'est la classe. Et Braithwaite, il était pas loin de faire le même coup lors de son entrée en jeu. Et on a beaucoup rigolé de Braithwaite, de son arrivée un peu rocambolesque, qui sort un peu de nulle part. Mais on a l'impression que c'était le seul Barcelonais à vouloir croquer dans le match, à jouer sans arrière-pensée. Et il a failli être récompensé, d'ailleurs. C'est, il est rentré, voilà, il a... comment dire, ouais, il était pas inhibé par l'enjeu, il était pas par rien en fait, et il avait une spontanéité que n'ont pas eu ses coéquipiers pendant tout le match. Comment vous l'expliquez ça?
Ce qui peut aider Bryce Wade, c'est qu'il n'est pas entre guillemets impacté par l'environnement depuis le début de la saison. Bryce Wade, c'est limite Charlie dans la chocolaterie. Pour lui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il jouait le maintien avec les Ganes, là il se retrouve à jouer et le titre en Liga et la Ligue des Champions. Donc ce qui peut l'aider, c'est cette forme d'insouciance, c'est-à-dire quand il arrive, il sait que il part avec un a priori très négatif et lui il aura tendance à se dire moi je suis là, je vais montrer ce que je sais faire. Je sais montrer mes qualités, et donc Bryce Wade, on voit notamment sur sa première action, il est typiquement dans ça. Et quelque part, ça peut aider le Barça, c'est-à-dire que hormis Messi, hormis Ansu Fati par séquence, on a très peu de joueurs qui sont capables d'avoir cette capacité d'intimidation, qui vont attaquer d'espace, et c'est pour ça que Bryce Wade a été recruté.
Tracy?
Oui, comme il dit Elton, c'est un peu, comme je disais quand il est arrivé, on n'attend pas grand-chose de lui. Et je pense qu'il en a, conscience et du coup il joue libéré. Et puis on a quand même aussi l'impression que c'est le joueur du Barça le plus en forme physiquement. Alors peut-être parce qu'il a fait une autre préparation, peut-être parce que voilà lui il est bien mentalement, parce que voilà il est pas préoccupé par ce qui se passe autour. Mais ça a l'air d'être en tout cas le plus en forme et celui qui peut avoir, comme disait Elton, qui peut impacter le plus. Le plus sur le jeu et faire peur entre guillemets, pas forcément par son niveau voilà mais par son impact l'adversaire, ce que peu de joueurs du Barça ont l'impression sont capables de faire.
Ouais, mais c'est-à-dire que quand tu regardes le match encore hier soir, Ramos et Varane, ils sont quand même dans un fauteuil, c'est-à-dire qu'à partir du moment il y a pas un joueur qui est capable d'aller les provoquer de front, ça reste facile pour ces deux défenseurs.
Mais c'est censé être pour ça qu'Arturo Vidal est sur le terrain, non?
C'est ça, mais t'es dans une logique de couverture. Et donc, ouais. T'as pas, entre guillemets, des duels de front à mener, et donc tu peux faire remonter le bloc. Mais à partir du moment où c'est vrai que Bryce Wade, il a évolué davantage sur un côté, mais à partir du moment où t'as un joueur qui va être dans l'idée d'aller déstructurer ton arrière-garde défensif.
Harceler.
C'est pas la même chose. C'est pas la même chose et forcément, ça s'est ressenti, mais de manière pas poussée non plus.
Un mot sur Mariano Diaz. Je pense que tous les madridistes se sont levés pour célébrer le but du 2-0, sauf Luka Jovic. Est-ce que vous pensez que ce but-là, c'est le dernier clou dans le cercueil de Jovic au Real Madrid?
Bon, après Zidane, il a quand même dit en conférence de presse que ça ne changeait rien. On n'est pas obligé de le croire, mais c'est vrai que la convocation d'avant-match te donne une indication, à savoir que Jovic, par rapport à ce qu'aspirait Zidane, il n'entre pas dans les plans de manière transitoire. Mariano, on ne peut pas lui enlever ça. Mariano, il a énormément de confiance en lui. On le voyait du côté de l'Olympique Lyonnais où il était capable de prendre un tir des 30 mètres. Lui, il est arrivé, il a fait du Mariano, il a marqué. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur les prochaines convocations? On verra, mais toujours est-il que Mariano a marqué des points parce qu'il marque sur un classico. On a même vu Pedrerol dire qu'il passait devant Benzema, donc le temps joue pour Mariano.
Toujours la nuance, Pedrerol.
Après, quand Mariano arrive, on est beaucoup à penser que c'est un... Quand le Real décide de le garder, tout le monde trouve que c'est quand même un peu la bonne pioche pour remplacer Benzema. On se dit que c'est un buteur, voilà, comme dit Elton, il a confiance en lui. On se dit que pour jouer les matchs contre les petites équipes entre guillemets de Liga, il sera là. On était beaucoup à penser que c'était la bonne pioche. Après, de l'autre côté, Jovic a coûté cher. Et est-ce que Zidane, bon, même si je suis pas sûre que Zidane rentre dans ces considérations là. Il peut un peu faire faire ce qu'il veut au Real, mais à voir. Mais je pense quand même que Zidane va essayer de garder tout le monde concerné. Ouais.
Mais quand même, ça fait 60, plus de 60 millions le transfert. Ça fait pour deux buts. C'est quand même. Pour, après, c'est une première saison au Real Madrid. Mais est-ce qu'il aura du temps pour d'ici la fin de saison pour montrer sa valeur, ou est-ce qu'il va être prêté? Mais j'ai l'impression que Florentino Pérez, il a pas le truc pour quand il signe le chèque, il est pas très bon sur les attaquants. Je sais pas ce que comment vous voyez ça.
Ah, mais exactement, je le dis souvent, au Real et au Barça, l'avenir, c'est le présent. C'est-à-dire que tu peux pas t'inscrire dans la durée si t'attends pas quelque chose tout de suite. L'histoire, enfin, l'idée n'est pas de dire que Jovic, dans l'absolu, en fin de saison, il va partir, mais il perd des points de la perspective, justement, de la saison prochaine. Aussi, il y a un ajustement à faire sur le plan offensif. Tu peux te dire, pour soulager Benzema, rapporter amener un autre joueur, ça peut être très intéressant. Et à partir de là, déjà que le temps de jeu de Jovic n'est pas très conséquent, attention à la saison prochaine. Moi, je pense qu'il aura une deuxième saison, entre guillemets, pour montrer sa valeur du côté du Real. Mais j'imagine très bien qu'il va y avoir un apport offensif de plus. Et là, ça peut être très compliqué pour lui.
Tracy ?
Tout à fait. Mais justement, comme Jovic et Mariano, on en attend pas les mêmes choses. Comme je disais, Mariano, on en parlait pour faire souffler Benzema, pour être celui qui jouera les petits matchs. Jovic, il a coûté une certaine somme et c'est pas ce qu'on attend de lui. On attend beaucoup plus et je pense que il restera, comme disait Elton, encore une saison. Mais je pense aussi que le Real va investir, Eden Hazard va revenir. Comment va jouer Zidane aussi? Est-ce qu'il faut trouver le bon schéma? Il a eu du mal à les faire jouer ensemble avec Benzema. Donc à voir.
Quelque chose à rajouter sur ce classico Elton et Tracy pour refermer cette deuxième partie?
Quelque chose à rajouter. J'ai quand même envie de relever la performance de Carvajal, qui en deuxième mi-temps est monté d'un cran. Il a quand même joué meneur de jeu sur les 30 dernières minutes. Et ça va lui faire du bien parce que mercredi, il avait été entre guillemets pointé du doigt après sa deuxième mi-temps qui avait été cataclysmique, notamment face à Sterling. Donc il a répondu de la meilleure des manières. Et sinon, Benzema, que j'aime toujours autant dans ce type de match-là parce que effectivement, il est clivant. Il doit marquer deux buts pour contenter Concha et Spina, mais toujours est-il que dans ses dézonages. Et d'ailleurs, il y a Movistar qui a capté une séquence où Eder Sarabia parlait de Benzema qui crée des supériorités à travers dézonages. Pardon. Et donc, on voit que c'est un joueur qui reste essentiel. Moi, j'aime à dire que Benzema, pour ce type de match-là, je prends tous les jours.
Merci.
Bah, du coup, après tout ce qu'on a lu depuis hier, je vais quand même rappeler qu'il n'y a toujours qu'un point d'écart. Parce qu'on a lu que c'était presque terminé pour le Barça. Alors personnellement, je pense que le Barça va avoir beaucoup de mal à gagner ce championnat. Juste pour une raison, c'est que voilà, Messi me semble touché physiquement. Mais il reste qu'un point. Il y a des gros matchs à venir des deux côtés. Plus la Ligue des Champions, même si ça pourrait se terminer assez vite, même pour les deux équipes, hein, ça pourrait se terminer assez vite. Mais sinon, moi, le joueur que je veux toujours mettre en avant et que je mettrai toujours en avant, ce sera toujours Busquets, parce que quand il est là, c'est toujours un Barça différent. Avec Setién, c'est quand même un autre joueur que sous Valverde. Alors, comme tu disais, François, il peut pas tout faire. Bien sûr, il a besoin d'avoir plus de joueurs à ses côtés, mais ça reste un joueur exceptionnel et qu'on adore voir jouer. Et j'espère que Setién, si c'est lui l'année prochaine, arrivera à trouver des joueurs ou à faire progresser les joueurs pour avoir une entente avec Busquets qui convienne au Barça.
C'est la fin de ce Folia Liga podcast. Je remercie Tracy Rodrigo et Elton Moncolo qui était avec moi en plateau. Merci à vous.
Merci à toi.
C'est un plaisir.
Ainsi que Thomas Galarrague à la technique. On se retrouve vite sur folialiga.fr pour nos articles sur Hearty, SpotCloud et Spotify pour nos podcasts. Allez, hasta luego. Ciao, adeo.